Décryptage, Marie Cazadebé.
Madagascar a un nouveau Premier ministre. Christian Tsay a prêté serment ce matin à Antananarivo. Son prédécesseur, Olivier Mafal, y voit le début de la résolution de la crise actuelle. Un mois et demi de manifestations de l'opposition contre la réforme des lois électorales, puis pour la démission du président de la République. C'est finalement à la tête du gouvernement que le changement intervient, avec une personnalité sans étiquette politique.
La première priorité est la préparation d'élections inclusives, transparentes et crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tous. Il est désormais urgent de publier les textes réglementaires relatifs aux élections, en particulier d'arrêter la date précise pour la tenue de celles-ci.
Christian Tsay, qui va devoir maintenant composer un gouvernement d'union nationale qui sera aux affaires jusqu'à fin octobre au plus tard. C'est un défi de taille qui l'attend, tellement le paysage politique a été bouleversé ces dernières semaines. Alors est-ce que ce changement de Premier ministre va permettre de faire baisser les tensions? Comment se présentent dans ce contexte les futures élections? Et surtout, comment les Malgaches perçoivent cette énième crise politique? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Michel Galli.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Et nous sommes aussi en ligne avec Keta Kandrian, Rafi Toussaint, Antananarivo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques et je vais vous poser une première question toute simple, madame. Okay. Connaissiez-vous bien Christian Tsay avant qu'il ne devienne Premier ministre?
En fait, c'est un personnage public qui est assez connu en tant que technicien, puisqu'il a été représentant du Bureau international du travail, notamment c'est un ancien ministre également, ancien directeur général de la Solima. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'administration publique, c'est une personnalité connue.
Mais par les Malgaches contre, lambda de la rue,
Malgache,
oui.
Justement, pour le Malgache lambda, c'est un peu un inconnu parce qu'il ne s'est pas beaucoup illustré sur l'échiquier politique jusqu'à maintenant. Donc ça reste une figure à découvrir, on va dire.
Alors il n'est membre d'aucun des trois principaux partis du pays, ni celui du président, ni ceux des deux leaders d'opposition. Est-ce que c'est pour autant un signe de neutralité, selon vous?
Pas forcément, hein, parce que déjà, il a été proposé par le MAPAR, qu'il y a quand même une raison derrière cette nomination. Il ne faut pas se leurrer. Et puis, même s'il n'a pas de passif politique à proprement parler, il a quand même évolué sous l'ère de Ratirak, donc il se peut qu'il y ait des affiliations au sein de l'AREMA, etc. Donc il faut rester prudent toujours. Il n'y a pas de personnalité politique neutre à Madagascar.
Alors le MAPAR, hein, c'est le parti de l'ex-président Radzoel, donc maintenant dans l'opposition. Et selon la Constitution, c'est le groupe majoritaire à l'Assemblée qui propose un nom au président Michel Galli. Pourquoi ce choix, à votre avis, de la part du MAPAR, un haut fonctionnaire peu connu des Malgaches de la rue, connu pour être un technicien?
Oui, c'est l'image que ça veut donner, effectivement, une sorte de gouvernement de technicien neutre. Mais je vous rappelle que c'est un peu le second choix, hein, pour le MAPAR, puisque la première liste que ce parti d'opposition avait présentée a été retoquée, refusée par le président. Donc, après de nombreuses tractations, c'est ce nom qui est sorti. Mais en fait, comme l'a dit ma collègue, il a eu ce monsieur... Premier ministre Christian Tsay donc a eu un passé politique, hein, et un passé aussi international, puisqu'il a été à l'Office international du travail pour l'océan Indien, il a été responsable. Donc il penche un peu quand même, effectivement, certes du côté du MAPAR, mais il a des liens étroits avec le président qui l'a accepté. Donc il n'est pas très neutre.
Il n'est pas très neutre. Et à votre avis, quelles sont les qualités qui font qu'aujourd'hui il se retrouve à ce poste au vu de son parcours professionnel?
Oui, je pense, vous l'avez dit, hein, c'est quelqu'un qui est en dehors des trois grands partis, en tout cas officiellement, quelle que soit sa sensibilité. Et maintenant, cet avantage est aussi un inconvénient parce qu'il n'a pas aussi une formation politique derrière lui. Donc il risque d'être coincé entre l'arbre présidentiel et l'écorce de l'opposition. Si on parle du jeu politique traditionnel, mais il y a la rue aussi, hein, qui a protesté et qui est toujours là, hein, depuis, vous l'avez rappelé, depuis avril. Il y a eu quand même une manifestation le 21 avril avec 2 morts, et ça c'est un signe très fort au moment des transitions à Madagascar et qui marque les esprits.
On va forcément revenir aux épisodes précédents, hein, que cela rappelle, mais au lendemain de la nomination de Christian Tseye, notre correspondante Sarah Teto s'est rendue sur la fameuse place du 13 mai, où les partisans du MAPAR et du TIM, les deux principaux partis d'opposition, se réunissent depuis le mois d'avril. Écoutez leur réaction.
Si ça avait été notre liste, ça aurait dû être moi le Premier ministre, clame Jean Brunel du MAPAR. Je ne suis pas un menteur, le président Radzoel non plus. S'il a dit qu'il y avait un accord, c'est qu'il y en avait tant, hurle à son tour Roberto Raruarilal, également du MAPAR. Si tous jouent la carte de l'apaisement en affirmant accepter la nomination de ce nouveau Premier ministre, les députés pro-Ravalman n'hésitent pas à rappeler, amer, que Radzoel n'a pas consulté leur chef de file, Ansh Razaf Manansou, député TIM.
Hier, beaucoup d'entre nous ont pris ça comme une trahison, et trahison aussi envers les manifestants.
Keta Kandrian, Rafi Toussaint, on l'entend, hein, pas d'unanimité évidente autour du nom du nouveau Premier ministre malgache, ça vous étonne?
Pas vraiment, c'est ça la politique à Madagascar et pas qu'à Mata, hein, aussi ailleurs. On parle d'un Premier ministre de consensus, mais le consensus, il n'y en a pas. Parce que comme on l'a entendu dans les déclarations de ses personnalités, le TIM n'a pas été vraiment consulté à propos de cette nomination. Mais je pense que le parti va quand même essayer de se rattraper dans la composition du gouvernement. Mmh. Et il est essentiel aussi de se rappeler que toutes les parties ont intérêt à jouer la carte de l'apaisement aujourd'hui, donc ils ne vont pas contester cette nomination. Par contre, ce que je mets en avant, c'est qu'il manque quand même de la transparence dans toute cette démarche, parce que la HCC avait par exemple parlé d'un accord politique. Le président lui a aussi parlé d'un accord politique pour justifier cette nomination, mais le grand public, la société civile, n'est pas au fait de cet accord politique. Pourquoi n'est-il pas publié? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas la clé de répartition du prochain gouvernement?
Le HCC, hein, c'est la Haute Cour constitutionnelle qui a eu un rôle très très important dans cette crise. Maintenant, Christian Tseye va devoir composer un gouvernement d'union nationale. Les ministères devront être répartis entre les différentes mouvances présentes dans l'Assemblée. Le problème, Michel Galli, c'est que depuis les législatives de 2013, il y a eu beaucoup de mouvements, des députés qui changent de camp, un parti du président Radon Armampian qui n'existait pas lors du scrutin, qui est né un an plus tard ou à peu près. Ça s'annonce vraiment un casse-tête, non, pour Christian Tseye?
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'a dit ma collègue. Il y a des tractations très malgaches, mais qui sont réduites au fond à une élite de la capitale, avec des gens, effectivement, d'ailleurs, de province des côtes. Mais donc, le peuple est un peu entier, hein, je dirais. Et il y a aussi des acteurs cachés, peut-être on en parlera, qui sont l'armée qui a tapé du poing sur la table, et puis aussi les églises toutes puissantes. Donc, pour la population, c'est un peu la boîte noire du politique au sommet, et la répartition des sièges là-bas comme ailleurs, et la transhumance électorale, comme on dit aussi ailleurs. Et donc tout ça donne quand même une image désastreuse de la politique dans un pays qui s'est appauvri et qui va de crise en crise.
Et le président Radzoel Armampian, dans tout ça, il risque de se retrouver encore plus isolé. Il avait proposé, on va y revenir, des lois électorales qui ont été retoquées. Aujourd'hui, il se retrouve obligé de faire avec deux partis d'opposition s'ils sont clairement ses adversaires politiques. Quelle place il lui reste ?
Oui, il reste la portion congrue, d'autant plus qu'il y a une sorte de jurisprudence malgache de destitution de président encombrant ou récalcitrant, comme à l'époque Albert Zaf, et de transition violente. Donc je pense qu'il peut se faire du souci, parce que clairement, il n'aura pas la majorité dans le nouveau gouvernement, hein, quel que soit le taux de répartition entre les principaux partis d'opposition que sont effectivement TIM ou le MAPAR. Et donc, il risque de jouer, comme on dit en sciences politiques, le rôle un peu de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire régner sans pouvoir du tout gouverner.
Keta Kandrian, je vous entends rire. Ça vous parle, ce rôle, alors, de reine d'Angleterre de Madagascar?
Oui. Tout à fait. C'est symbolique, on va dire. Le président, aujourd'hui, il joue un peu ce rôle-là. Comme je l'ai dit, il veut se poser en tant que rassembleur. Il joue la carte de l'apaisement. Et il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même les calculs électoraux de part et d'autre, hein, que ce soit au niveau du HVM, du MAPAR ou bien du TIM. Chacun va essayer de mettre ses pions en avant, et l'accord politique tel qu'il a été conclu ou qu'il va encore se conclure et évoluer dans le temps, va essayer de d'équilibrer ces forces-là qui ne sont pas forcément équilibrées aujourd'hui. Mmh. Parce que le HVM est en difficulté, hein, ça on le sait. Il a un premier ministre donc qui est issu du MAPAR aujourd'hui. La cohabitation ne va pas être forcément évidente pour tout le monde, mais tous ces partis politiques ont vraiment intérêt à ce que cela fonctionne pour aboutir à des élections programmées pour bientôt.
Des partis politiques qui ont demandé et qui demandent toujours le départ de Ranzonarmanpian, pardon. Il n'est pas passé loin de la destitution, mais pas question pour lui de partir. C'est ce qu'il disait le 29 avril dernier.
Je suis président par la volonté du peuple et ce serait trahir le peuple malgache que de quitter le pouvoir alors que ce sont des millions de personnes qui m'ont élu. Les voies légales ne sont pas encore épuisées, donc attendons les résultats.
Michel Galli, ces dernières années, des présidents malgaches ont été balayés par la rue. Didier Ratirak en 2002, Marc Ravalomanana en 2009. Comment Ranzonarmanpian a-t-il pu résister? Est-ce que la situation est quand même différente?
Comme l'a dit le député Rossi, qui est aussi un chanteur très connu, s'il y a du sang à Madagascar, ça quand même marque mal pour le tenant du pouvoir, qui, comme vous l'avez dit, est tôt ou tard balayé. Mais c'est effectivement, il y a eu des massacres au moment du départ de Ratsirak, des morts aussi, au moment où Ravalomanana se refusait à quitter le pouvoir. Donc je dirais que la situation est un peu fluctuante et ambiguë. Et que la rue, notamment ceux qui manifestent, comme vous l'avez rappelé, au cœur de la capitale, tous les jours, n'ont pas encore dit le dernier mot. Et que pour le moment, effectivement, il y a une voie en quelque sorte légale et constitutionnelle, même si l'armée a fait plier en quelque sorte les différents partenaires, notamment le président. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une issue violente en cas de clash, notamment dans les rapports effectivement de cohabitation entre le nouveau gouvernement et le président.
Keita Kandrienne, Rafi Toussaint, Michel Galli a fait plusieurs fois allusion donc à l'intervention de l'armée, du ministre de la Défense, hein, qui a demandé au parti de s'entendre, laissant présager une réaction hein, s'il n'y avait pas d'entente entre eux. Est-ce que vous pensez que c'est l'armée qui a évité justement le bain de sang et qui pourrait à nouveau peut-être intervenir pour éviter un scénario à la Ratirak ou à la Ravalomanana?
Oui, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'armée se détache un peu de tout ce qui est parti politique et même du pouvoir, hein, parce que lors des crises précédentes, on a bien vu que l'armée était vraiment le bras armé du régime politique. Aujourd'hui, cette armée-là, elle veut se redonner une image vraiment de protecteur du peuple, etc. Donc, elle se pose en tant qu'arbitre et pose aussi des balises pour limiter les actions et les exactions politiques. Donc, oui, jusqu'à un certain moment, mais on sait aussi que l'armée à Madagascar, elle a l'habitude de se vendre au plus offrant. Donc, moi, je ne dirais pas, je ne mettrai pas de point final sur cette discussion parce que tout est encore possible. S'il y a une force politique majeure qui met beaucoup d'argent sur la table, moi je crains encore que ça aille, que ça parte en dérive, quoi, que l'armée se laisse entraîner encore une fois dans ses tractations politiques.
Michel Galli, on a parlé tout à l'heure d'un président affaibli, Ranzonarmanpian, qui au départ de la crise était accusé par ses adversaires de vouloir les affaiblir par le biais d'une modification de la loi électorale. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres finalement dans ce projet de loi retoqué hein, depuis par la Haute Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qui ne passait pas dans cette loi?
Alors effectivement, comme dans beaucoup de pays, notamment en Afrique subsaharienne, c'est dans le détail... comme on dit, que gît le diable, hein, il y a un dicton dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est une loi électorale favorable au président, avec des élections à un moment fâcheux. Vous avez vu que la Haute Cour a insisté pour que les élections se tiennent avant octobre, avant la saison des pluies, dans les meilleures conditions. Et donc c'est toujours pareil, la loi électorale, le fichier électoral, les conditions même d'intervention de l'État derrière le président ou non. Donc c'est là, dans ce détail des tractations, que va se jouer l'élection.
Les deux leaders d'opposition, Ravalomanana et Radzuel, pensaient que certains amendements ou certains articles de cette loi leur étaient directement adressés, notamment le besoin d'avoir un casier judiciaire vierge ou de ne pas être trop près des médias. Est-ce que vous pensez vraiment que cette loi a été écrite à leur adresse ?
Oui, c'est évident, pas que pour eux, hein, mais ça les visait directement, tout à fait, hein, puisque comme vous avez dit, au fond, les successions précédentes et des actions en justice ne sont pas soldées, et ça aurait pu, avec une gouvernance autoritaire, exclure ces acteurs majeurs du processus politique. Alors là, ça aurait été une situation très violente. Il y a toujours, pour en revenir à ce qu'on disait, l'antise d'une sorte de gouvernorat ou de transition militaire, hein, puisque je vous rappelle, sans remonter au général Ratsimandrav ou l'amiral Ratsira, qui a toujours cette armée qui, au fond, en arrière de la vie politique, mais qui la gouverne indirectement ou qui menace de le faire.
Keta Kandrian Ravitousson, on va s'intéresser maintenant aux Malgaches. Malgré une éclaircie économique depuis l'année dernière, 80% des habitants de la Grande Île vivent sous le seuil de pauvreté, notamment en raison de ces crises. Laetitia Bezin a recueilli le témoignage de Malgaches dans le centre de la capitale après plus d'un mois de manifestations de l'opposition.
J'en ai vraiment marre, je n'ai plus envie de penser aux politiciens, ils sont trop égoïstes. Nous, ce que l'on attend, c'est un grand changement de mentalité de la part de nos dirigeants.
Ils ne pensent qu'à eux, ils font semblant de se battre, alors que quand ils auront leur place, ils feront la même chose que ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Là, ils disent qu'ils sont proches du peuple, mais quand ils auront leur place, ils ne tiendront plus compte de nous.
J'en ai marre de tout ce qui se passe parce que notre routine est chamboulée, c'est la pagaille en ce moment. De toute façon, tous les 10 ans, il y a des problèmes à Madagascar en 2009. Et puis maintenant, en 2018, on en a vraiment marre de ce qui se passe actuellement.
Madame Ravitousson, on entend vraiment un décalage énorme entre les remous politiques dont on parle depuis le début de cette émission. Exactement. Et le ressenti de ces Malgaches qui, là, pour cela, travaillent, vivent à deux pas de cette fameuse place du 13 mai. C'est vraiment ce que vous percevez ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a ce clivage clair dans la société malgache, hein, vous savez qu'il y a bien des manifestants du 13 mai, mais ils ne représentent absolument pas l'ensemble de la population malgache. Parce que la grande masse, celle qu'on appelle la masse silencieuse aujourd'hui, c'est celle qui se plaint justement, qui a ras le bol de ces rebondissements politiques à répétition et qui veut juste, qui aspire juste à une vie décente. Vous avez dit tout à l'heure que près de 80% des Malgaches vivent dans l'extrême pauvreté. C'est une réalité parce que la crise, la véritable crise qu'il y a à Madagascar, c'est cette crise socio-économique persistante, cette paupérisation continue de la population. Mais ça, malheureusement, on n'en parle jamais. Et il y a un trop grand gap entre les plus riches, cette élite politique dont on parle tous les jours, et les très pauvres qui sont pourtant majoritaires. Et si je peux me permettre de revenir un peu sur la question des droits électoraux, l'une des questions majeures qui a choqué le public dans ces lois électorales, c'était la suppression des dispositions sur la limitation du financement de la campagne électorale. Il y avait question de plafonner, d'assurer la transparence de ces fonds-là, mais tout ça a été occulté, balayé, un revers de main par des politiciens. Et ça choque le grand public parce qu'on se demande quand même d'où est-ce qu'ils tirent tout cet argent, ces politiciens, alors que le lambda malgache, lui, il vit dans l'extrême pauvreté et ça au quotidien.
Michel Galli, il nous reste une grosse minute. Le Madagascar est le seul pays au monde qui s'appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. À votre avis, les crises politiques à répétition, c'est une cause, une conséquence de cette pauvreté ?
Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est comme l'œuf et la poule, c'est difficile de déterminer qui est le premier. Mais je voudrais insister sur un point. J'étais pour Caïra International plusieurs années à Madagascar, étudier l'extrême pauvreté, puis pour Action contre la faim. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les sanctions internationales ont appauvri encore Madagascar, notamment sur le plan alimentaire. Et ça, il y a quelque chose de scandaleux. Bon, ça s'est arrêté hein, maintenant, il y a depuis 2 ans. Mais paradoxalement, les pays occidentaux, la France en particulier, ont un rôle dans ces crises perpétuelles politiques et dans l'appauvrissement du pays.
Merci beaucoup Michel Galli d'avoir été avec nous, politologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Et merci Keta Kandrian Ravitousson en ligne avec nous d'Antananarive, chercheuse en sciences politiques. Merci à vous deux. Décryptage images. Toute l'équipe était à mes côtés. Claude Battista, Eleonora Farad, Emmanuel Sevin, Charles Barret et Laurence Sarniguet. L'émission continue sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.